première lettre aux Thessaloniciens de 2 à 6. Nous remercions toujours Dieu pour vous tous et nous pensons sans cesse à vous dans nos prières. En effet, nous nous rappelons devant Dieu, notre Père, votre foi si efficace, votre amour si actif, votre espérance si ferme en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimé et vous a choisi pour être avec lui. En effet, quand vous nous avons annoncé la bonne nouvelle, ce ne fut pas seulement en parole, mais aussi avec la puissance et le secours du Saint-Esprit, et avec une entière conviction. Vous savez comme nous nous sommes comportés parmi vous, pour votre bien. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Malgré la détresse qui était la vôtre, vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie qui vient du Saint-Esprit. Alors, Matthieu 25, 14 à 30, la parabole des trois serviteurs. Il en sera comme d'un homme qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, et à un troisième 100, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Le serviteur qui avait reçu les 500 pièces d'or s'en alla aussitôt faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces d'or. Celui qui avait reçu 200 pièces d'or agit de la même et gagna 200 autres pièces. Mais celui qui avait reçu 100 pièces d'or s'en alla creuser un trou dans la terre et y cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et se mit à régler ses comptes avec eux. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta les 500 autres pièces en disant « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or. J'en ai gagné 500 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Le serviteur qui avait reçu les 200 pièces s'approcha ensuite et dit « Maître, tu m'avais remis 200 pièces d'or. J'en ai gagné 200 autres. Les voici. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. » Enfin, le serviteur qui avait reçu les 100 pièces s'approcha et dit « Maître, je te connaissais comme un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as rien planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Eh bien, voici ce qui t'appartient. » Son maître lui répondit « Mauvais serviteur paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai rien planté. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent à la banque et à mon retour, j'aurais retiré mon bien avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or et remettez-les à celui qui en a 1000. Car quiconque a quelque chose recevra davantage et sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même le peu qui pourrait lui rester. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dehors, dans le noir, où l'on pleure et grince des dents. »
Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne casse rien. C'est avec ces mots que ma mère me consolait quand j'étais petite et que je cassais un verre, que je cassais souvent d'ailleurs. Et c'est un petit peu cette morale que nous retrouvons dans notre histoire et que le pasteur Antoine Nuis résume ainsi. Il sera plus pardonné à celui qui s'est trompé qu'à celui qui n'a rien fait. Alors nous avons dans notre parabole un maître qui appelle ses meilleurs serviteurs et qui leur distribue une partie de sa fortune. Alors au premier, il donne 5 talents. Là, nous avons eu dans la traduction 500 pièces d'or, mais c'est vrai qu'on a dans le texte le terme de talent. C'est pour dire la monnaie grecque qui représente beaucoup d'argent. Donc 5 talents au premier, 2 au deuxième et puis 1 au troisième. Un talent, faut imaginer une grosse plaque d'argent qui pèse 30 kilos, hein, un truc immense et pas très transportable, et qui représente énormément, énormément d'argent. Un talent, c'est à peu près 6000 deniers, et un denier, c'est le salaire journalier d'un ouvrier. Donc si on fait un calcul un peu grossier, on va dire, c'est 20 ans de travail, c'est le salaire de toute une vie. Alors j'ai choisi de lire ce texte avec vous aujourd'hui. C'est un texte que j'ai lu avec le groupe des EDC, le groupe des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, un groupe qui s'est constitué il y a 2 ans dans la paroisse et que j'ai accompagné en tant que conseiller spirituel. Et j'ai choisi ce texte pour des dirigeants d'aujourd'hui, bien sûr parce que c'est un texte qui pose un contexte économique. Forcément, on a un patron qui a des employés. On voit la confiance qu'il leur porte. C'est important, il leur donne ses talents. Et puis, il y a ce dialogue à son retour. Alors, j'ai voulu choisir ce texte, non pas pour dire c'est bien cette économie capitaliste, il faut faire le plus possible de profit, il faut gagner de l'argent, c'est bien. Je ne pense pas que ça soit ça que Jésus veuille nous dire dans ce texte. Son but n'est pas de nous apporter une théorie économique toute faite. Et il veut nous faire comprendre autre chose, je pense. Mais en tout cas, si j'ai lu ce texte avec le groupe des EDC, c'est parce que pour des dirigeants d'aujourd'hui, je pense que c'est une invitation à avoir le courage d'oser et d'oser entreprendre et de créer. Ne pas avoir peur de prendre les devants, ne pas avoir peur de perdre cet argent, ne pas faire comme ce troisième serviteur qui redoute le vol et la mauvaise gestion des banquiers, et qui enfouit son talent dans la terre. Parce qu'en enterrant ce talent, il gèle totalement la somme d'argent, il bloque totalement la circulation de l'argent, et il bloque tous les échanges. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Il ne veut pas qu'il n'y ait plus d'échanges, parce que s'il n'y a plus d'échanges, il n'y a plus de vie. Au contraire, la foi doit être vivante et doit être plus sur l'être que l'avoir. Jésus nous dit qu'il faut prendre un risque. Prendre un risque, comme disait le philosophe Pascal, qui parlait du pari de la foi. Le pari de la foi, c'est l'homme qui a tout intérêt à croire en Dieu, car ainsi il gagne sa place au paradis, alors que s'il n'y croit pas, il reste enfermé en enfer. Pour dire que la foi, c'est un pari à haut risque, mais qui rend vivant et nous sort de la mort. Et la semaine dernière, quand j'attendais mon train à la gare, je jetais un coup d'œil au kiosque à journaux et je repérais que toutes les unes des magazines économiques titraient « Apprendre à oser »,« Le culot, ça paye » ou encore « On ne perd rien à tenter sa chance ». J'aimais bien cette Je trouvais que ça collait à notre texte, cette morale, on ne perd rien à tenter sa chance. Je voyais que déjà Jésus, il y a 2000 ans, était audacieux. Il était en avance sur son temps. Et c'est ce même esprit d'audace qui anima Luther il y a 500 ans lorsqu'il osa afficher ce qu'il pensait sur les portes de l'église de Wittenberg. Et aujourd'hui encore, nous fêtons cet événement, cette foi audacieuse qui bouleverse l'église, qui bouleverse tout un monde, mais qui montre que la foi peut être libre devant Dieu. Alors, cette culture de l'audace, c'est plutôt anglo-saxon. Nous, on est un peu frileux avec cette prise de risque. On voit plus des entrepreneurs aux États-Unis qui osent tout miser sur leur domaine d'activité, qui ont un peu presque un grain de folie pour tenter le tout pour le tout. Et puis, là-bas, c'est mieux vu, finalement, quelqu'un qui aurait tenté tout, même s'il perd, même si il a commis des erreurs, il a ce droit à l'échec. Disons, il ose rebondir et il finit par être enrichi, finalement, de cette expérience. Tout dépend du point de vue que l'on prend. Si l'on sait regarder du bon côté des choses, si l'on sait retirer le positif du négatif, alors on peut rebondir et repartir. Et j'aime bien ce que disait Nelson Mandela, c'est « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Prendre donc le risque de faire fructifier ses talents. Que sont ces talents ? Alors pour Martin Luther, ses talents, ce n'est autre chose que la parole de Dieu. Ce sont les Écritures, ce trésor inestimable qu'il nous donne et qu'il nous enseigne à transmettre. Et puis pour Calvin, les talents, ce sont les dons naturels que nous avons reçus et puis ceux qui nous viennent du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le terme français de talent vient du terme grec qui désignait déjà la monnaie. Alors on peut jouer sur cette ambiguïté de la langue, les talents au sens propre comme au sens figuré. Chez les réformateurs, nous avons deux visions légèrement différentes. Nous avons le Luther, le théologien bibliste, qui pose la Bible au centre de tout, selon son principe du sola scriptura, l'écriture seule. Et c'est pour cette raison qu'il s'attache toujours à repartir du texte originel, à traduire la Bible de l'hébreu et du grec, et ensuite à la traduire dans la langue populaire pour que chacun y ait accès. C'était ça qu'il voulait faire passer comme message avant tout, que chacun puisse accueillir ce don merveilleux de la parole de Dieu. Et puis nous avons Calvin, qui est le pasteur qui met en place l'Église, qui confie à chacun des responsabilités selon ses capacités, comme nous dit le texte. Et il insiste plus sur les talents que nous avons en nous et que nous sommes appelés à développer pour le service de la communauté et de notre prochain. En tout cas, ces talents sont le signe d'un don de la part du Maître. Dieu nous donne ses talents, pardon, il les donne à chacun, il donne différemment, bien sûr, mais il donne et gratuitement. Et ce n'est pas un prêt pour une durée limitée. Le maître ne vient pas récupérer son bien, il vient se réjouir avec ses serviteurs. Il vient se réjouir de ce que les serviteurs ont fait de ce cadeau. Et c'est le Dieu créateur qui nous confie ce qu'il a de plus précieux, c'est-à-dire sa création. Et en cela, il nous fait co-créateurs. Si le troisième serviteur n'a même plus rien, même le peu qu'il avait, on le lui retire, c'est qu'il s'est condamné lui-même. Vous allez me dire, oui, mais au premier abord, il paraît sage, il enfouit son talent, il le préserve, il a peur que le maître vienne, enfin, il a peur qu'on lui vole et donc que le maître lui reproche de l'avoir perdu. Mais ce n'est pas cela que son maître attendait de lui. Il attendait qu'il reçoive ce talent comme un cadeau. et qu'il l'accepte comme ce don et qu'il en fasse bon usage, c'est-à-dire qu'il le fasse fructifier. Et au contraire, il a refusé le cadeau, il avait une mauvaise idée du maître, une mauvaise image d'un homme terrifiant qui viendrait lui rendre des comptes, lui faire rendre des comptes. Alors nous aussi, les serviteurs que nous sommes, nous avons la responsabilité de parler de notre maître, de notre Dieu qui est aimant et doux, et non pas un Dieu violent et jaloux. C'est un Dieu d'amour qui pardonne et console. Et nous avons dans ce texte un sentiment d'urgence. On nous dit c'est tout de suite qu'il faut le faire. Parce que nous sommes à la fin de l'évangile, c'est la dernière parabole que prononce Jésus avant la Pâque, et elle est forcément empreinte de rigueur. Et il insiste sur le fait qu'il faut croître, faire croître ce que l'on a reçu. Et ce que l'on a reçu, c'est ici et maintenant que nous devons le faire. D'ailleurs, les deux premiers serviteurs agissent aussitôt. Aussitôt, ils placent leur argent. Ils n'attendent pas, parce que le temps d'attente est vain et stérile. Il n'y a aucun fruit qui se produit. Mais ce sentiment d'urgence ne doit pas pour autant nous paralyser et nous empêcher d'agir. Au contraire, nous devons oser l'évangile, même si pour cela, il nous faut risquer ce que l'on a reçu. Alors, entre un bon et un mauvais choix, nous sommes invités à oser persévérer sans nous lasser, même si les résultats ne sont pas immédiats. Nous sommes appelés à entreprendre sans craindre les menaces extérieures. Au final, choisir l'évangile avec Jésus, c'est entrer dans une nouvelle économie, l'économie du royaume. Ce ne sont plus des lois humaines qui régissent le monde et les échanges, et c'est le pardon d'un Père qui aime et qui console. Cette parole de Dieu et cet héritage que nous avons reçu de la réforme, un peu comme ces talents de la parabole qui se sont multipliés, qui se sont diversifiés avec le temps, mais que nous avons reçus, c'est de notre responsabilité de les accueillir comme un don et de le partager autour de nous, ici et maintenant. Alors à nous de nous lever, d'avancer et de cheminer avec joie, confiance et espérance. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter le prochain cantique. Pardon, j'ai oublié le numéro. Tu me veux à ton service.